Je suis très honoré et un peu inquiet d'intervenir dans un colloque qui est quand même à forte dominante historienne, car je ne suis qu'un pauvre géographe. Et donc, c'est très gentil et d'avoir effectivement invité un géographe. Donc, je vais faire tout à fait, je vais essayer de jouer, peut-être même de surjouer, sur mon identité disciplinaire. Mais j'ai été rassuré par plusieurs termes qui viennent d'être prononcés. Et d'abord, la longue durée. Donc, effectivement, le géographe s'inscrit, et je commencerai par là, par des millions d'années. Hein, c'est évidemment comme cela qu'on peut voir le contexte naturel. La deuxième chose, c'est les représentations, sur lesquelles vous avez effectivement bien expliqué. Et Françoise Desbosques, entre autres, a employé l'expression des réalités géographiques. Alors, je me suis demandé ce que c'était. J'en suis pas très sûr de les connaître d'ailleurs. Donc, je vais essayer peut-être de les démonter un petit peu sur justement ces idées-là. Alors, il y a quelque chose qui m'avait frappé tout de suite, c'est qu'il y a quelques années, j'avais publié un bouquin qui s'appelle sur le découpage, l'histoire du découpage du monde en continents, qui est tout sauf une réalité géographique, qui serait plutôt une réalité historique d'ailleurs, et qui est très humaine, et qui ne relève pas de la tectonique des plaques, en tout cas, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et l'iconographe, c'était un livre grand public, hein, et chez Larousse, et l'iconographe m'avait dit, mais on va commencer comme ça. Et j'avais trouvé que c'était une bonne idée, donc vous avez tout au début, justement, le détroit de Gibraltar, enfin plutôt le rocher de Gibraltar, mais avec l'idée qu'on est dans un endroit où le découpage du monde, le découpage continental est évident. Alors, de ce fait, je ne pouvais pas échapper à Arthur Haushalter, qui a un peu insisté pour que justement je vienne vous en parler. Alors, je vais le faire d'une manière particulièrement simplette, puisque je suis chargé de donner des traits généraux au départ de choses ensuite beaucoup plus savantes. Je joue sur deux registres très très élémentaires. Bien sûr, comme l'explication du colloque le dit très bien, un détroit, c'est une opposition entre terre et une opposition entre mer. Et donc ici, nord-sud et est-ouest. Donc je vais faire deux parties très élémentaires. Je dois trop enseigner à Sciences Po. Et est-ouest d'une part, nord-sud d'autre part. Et chaque fois, je vais le faire par un petit parcours, par quelques points chronologiques qui iront du très ancien au très récent d'abord pour retourner du très récent au très ancien ensuite. Voilà, c'est vraiment très simple. Alors, de ce fait, les premiers points abordés, ce sera le plus ancien que j'ai qualifié de récent, au sens géologique du terme. Justement, Gibraltar n'existe pas depuis très longtemps sur le plan géologique par rapport à d'autres réalités du découpage des terres et des mers. Et le fait qu'il y a des petites complexités purement naturelles entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, qui seront des éléments sans doute de contexte ultérieur. Et ensuite, on passera aux choses plus sérieuses après la géologie, puisque je voudrais dire deux mots de l'Atlantide, qui me semble concerner quelque peu le détroit de Gibraltar, et arriver aux représentations cartographiques continentales qui me concernent plus directement, avec les mappes-mondes médiévales. Donc, il y a des gens sans doute plus savants que moi ici, mais et c'est intéressant justement puisque Gibraltar figure en fait sur les mappes-mondes médiévales pour aboutir à la géographie la plus évidente pour nous qui est de la situer dans les circulations mondiales actuelles. Ça, c'est mon premier point. Le second est de partir de l'opposition nord-sud au sens global du terme actuel, ce qu'on appelle le nord, le sud ou les nord, les sud qui ont remplacé les pays développés et les pays sous-développés. J'en dirai deux mots parce que cette opposition est importante et qui passe évidemment justement au détroit de Gibraltar. Donc ensuite de reparler sur Afrique et Europe, brièvement sur le plan chronologique, peut-être pour un peu provoquer, et surtout pour le découpage continental. Je l'ai mis à la fin parce que je sais qu'il faudra m'arrêter. Ça a été très douloureux, je n'ai pris que quelques images et je pense que je tiendrai ainsi les trois quarts d'heure. Alors, le titre du première partie, vous êtes très sage, vous n'avez absolument rien dit, mais le verbe occidenter, qui n'est pas oxydé, ni occidentalisé, et ça peut vous paraître bizarre, évidemment, le logiciel a beaucoup râlé quand j'ai écrit cela, j'ai simplement voulu mettre l'inverse d'orienter, hein. Vous avez peut-être reconnu la plaisanterie. Donc, nous orientons nos cartes, nous ne les occidentons pas, pourquoi? Donc, ça va être un peu mon fil conducteur. Alors, je commence par l'aspect, c'était pour bien me situer en identité géographique, en me situant il y a un peu plus de 5 300 000, je crois, années. C'est une période qu'on appelle le Messénien, et où la mer qui deviendra, qu'on peut déjà appeler la Méditerranée, mais vous voyez que ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a heureusement mis le tracé de notre trait de côte actuel sous la carte, vous avez là quelque chose qui paraît un petit peu bizarre. Et remarquez qu'il y a eu des communications entre ce bassin maritime et ce qui est déjà depuis le Crétacé l'Atlantique, mais qu'elle ne passe pas par le détroit de Gibraltar, mais éventuellement cela fut plus au nord, quelque chose qui n'est pas encore tout à fait notre péninsule ibérique, et plus au sud. Entre autres pour dire que les découpages de plaques qui limitent de manière simple dans nos représentations l'Europe, la plaque euro-asiatique d'une part et la plaque africaine d'autre part, ne sont vraiment pas si simples que cela, et qu'on pourrait faire des découpages qui seraient très différents, plus au nord, plus au sud, et que cela géologiquement serait tout aussi fondé. Alors, ce découpage qui nous donne ce détroit actuel, il est intéressant sur le plan chronologique également, parce qu'à l'intérieur du tertiaire, de la géologie traditionnelle du tertiaire, les deux dernières périodes que vous voyez à l'extrême gauche de ce qui est à la fois une coupe et une chronologie, qu'on appelle le Miocène et le Pliocène. Le Pliocène est souvent considéré comme quasi-actuel, on parle souvent du Plio-Quaternaire pour décrire ces passages dans lesquels nous sommes inclus. La différence se fait justement avec, il y a 5 300 000 ans, l'ouverture du détroit de Gibraltar, qui donne une configuration subactuelle, pratiquement. Il y aura ensuite de simples variations du niveau marin liées aux glaciations ou aux interglaciaires. Mais il n'y a plus de grandes variations tectoniques profondes de la Terre. Donc le détroit de Gibraltar a un rôle chronologique absolument essentiel, puisqu'il est le marqueur avec l'ouverture méditerranéenne, ce qui donne une idée d'ailleurs de caractère très eurocentrique de notre chronologie. Mais on verra qu'il y a d'autres marques de ce type-là, nous y sommes habitués. Voilà, donc premier point, nous sommes bien dans un élément chronologique essentiel, mais évidemment d'une chronologie qui n'est pas très humaine. En tout cas, aujourd'hui, ça se manifeste par une zone, ce n'est pas une ligne, vraiment une zone très large, une zone sismique très forte, donc ça ne va pas vraiment jusqu'à Madrid. Donc nous pourrons en parler. Voilà. Nous serons tranquilles, mais vous avez là quelque chose qui peut remettre d'ailleurs constamment en cause la configuration que nous étudions. Alors, deuxième point tout à fait géologique et naturel qui est lié cette fois-ci à la circulation marine, vous savez qu'il y a un fort courant dans le détroit de Gibraltar, et ça aura certainement une grande importance pour beaucoup d'entre vous. L'idée est très simple, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est que la Méditerranée, si on fermait le détroit de Gibraltar, si on le bouchait, ce qui n'est plus le cas depuis 5 300 000 ans, on aurait ce qui s'était produit juste avant avec le Messénien que j'ai évoqué, une évaporation considérable. Le bassin n'est pas autosuffisant dans son alimentation, le Nil, le Rhône, le Po, etc. ne suffisent pas à remplir la mer Méditerranée, car il y fait plutôt chaud et donc il y a une évaporation. Ce qui s'était produit au Messénien, c'est qu'il y a eu un énorme dépôt de sel dans les couches géologiques. On a le souvenir, 1000 mètres dans le bassin occidental, d'une couche de sel considérable. Donc aujourd'hui, ce système se traduit par une alimentation de la Méditerranée par l'Atlantique, d'où un courant qui est de surface, puisqu'il y a aussi une petite langue de sel, d'eau salée plutôt, très salée, qui vient de la Méditerranée par en dessous. Donc si on plonge à plus de 200 ou 300 mètres, ça ne fait pas plus, le détroit de Gibraltar, on est pris dans un contre-courant qui est cette fois-ci d'est en ouest, et qui lui apporte d'une eau très salée qui plonge dans une langue de sel qui plonge dans l'Atlantique. Alors, venons-en aux choses sérieuses, parce que évidemment toutes ces considérations sans être humain nous intéressent que modérément. Donc, j'en viens à l'Atlantide. J'aime beaucoup, je suis parti de cette représentation du XVIIe siècle, qui est due à un curieux jésuite, qui est un précurseur de l'invention de la géologie, d'ailleurs, ce qui fait un peu la transition. L'Atlantide a joué un rôle important dans l'invention de la géologie, puisque c'est la découverte de la similitude des roches. Mais pour ça, il fallait avoir une idée de travailler sur la similitude des roches même, sur le classement des roches, entre la rive américaine et la rive eurafricaine, qui a fait penser qu'il y avait peut-être une histoire géologique un peu plus compliquée que celle du déluge. Donc au XVIIIe siècle, cela fait pas mal phosphorer. Au XVIIe, là, on a une carte d'un précurseur qui est assez curieuse, puisque vous voyez que nous, enfin, quand je dirais nous, ce sera le de Gibraltar, bien sûr, nous sommes à gauche, c'est-à-dire que nous avons une carte curieusement orientée, puisqu'elle est au sud, avec le Libérie et l'Afrique qui se trouvent ici. Mais on a cette image, évidemment, qui se voulait une image du passé de cet Atlantique qui aurait été un pont géologique entre la rive est et la rive ouest de l'Atlantique. Alors, vous savez sans doute que cela a donné récemment, enfin, il y a une dizaine d'années, des considérations un peu plus, je dirais presque farfelues, sur la localisation du détroit de l'Atlantique. Dans le détroit de Gibraltar, enfin dans la partie la plus occidentale, l'ouest, immédiatement à l'ouest du détroit de Gibraltar, puisque un géologue a fait remarquer que c'est plus net sur cette carte, que si on restitue le trait de côte de moins 130 mètres, qui est le trait de côte d'il y a environ 15 000 ans, de la fin de la dernière période glaciaire, émerge au milieu d'un détroit qui est beaucoup plus grand, que beaucoup plus allongé est-ouest que le détroit actuel, émerge un certain nombre d'archipels, un petit archipel que je vous ai mis ici, et qui correspond à certaines descriptions possibles que l'on peut faire de l'Atlantide. Alors, dans les faits, vous savez que l'Atlantide, fondamentalement, ça vient de deux textes de Platon, le Timée et le Critias, et que ce qu'il prête à un prêtre égyptien, on n'a aucune source antérieure qui permette, il est possible qu'il ait tout inventé, et le plus plausible, mais ça, Vidal-Naquet a fait un excellent petit livre là-dessus, son dernier vrai livre, sur l'analyse de ce mythe. Et à partir de cela, on a évidemment quelque chose qu'on peut interpréter comme une volonté de faire une anti-analyse de l'Athènes que connaissait Platon, et vous avez là quelque chose qu'il est sans doute tout à fait vain de localiser géographiquement. Mais cela continue, comme le trésor des Templiers ou d'autres choses, à faire phosphorer pas mal de gens. Donc les représentations d'une Atlantide atlantique, ce qui est assez logique et qui correspond au thème de Platon, vous voyez cette image de synthèse correspond bien d'ailleurs à la description que l'on a pu restituer à partir du texte de Platon, mais vous savez très bien, je vous mets l'affiche de Pabst pour faire référence au roman de Pierre Benoît, qu'on a pu la situer dans bien d'autres endroits et entre autres en plein milieu du Sahara. Donc je vais être obligé de quitter l'Atlantide, mais par rapport à notre détroit, ce n'est effectivement pas tout à fait inintéressant. Alors, plus sérieux encore, ce qui va nous permettre de répondre au caractère bizarre du titre de ma première partie, effectivement, je peux dire que notre détroit de Gibraltar, c'est l'inverse du paradis. Je ne veux pas dire que ce soit l'enfer, car l'enfer est l'inverse du paradis céleste. Et donc, ce qui est issu d'une imagerie ou d'une pensée, d'une représentation globale de l'univers qui remonte bien avant la rédaction du texte biblique, puisqu'on la trouve sur les cartes des tablettes babyloniennes et antérieures qui reprennent des récits antérieurs. Il y en a une très belle au British Museum. Vous avez l'idée que le paradis céleste, c'est en haut, et le paradis terrestre, l'enfer, c'est en dessous. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas universel, mais qui est partagé par l'ouest de l'Ancien Monde, dans lequel s'inscrit effectivement le texte biblique. Mais le paradis terrestre a longtemps posé une question géographique aux géographes, particulièrement évidemment ceux du Moyen-Âge qui prenaient le texte biblique au premier degré. Donc, la question est intéressante, le paradis terrestre. Alors, où était, parce que le situer, ça posait des problèmes dans la mesure où, si on pouvait localiser précisément le paradis terrestre, on aurait pu être tenté d'y aller. Et la quête du paradis terrestre devenait contradictoire avec la quête du paradis céleste, ce que les théologiens auraient quand même eu un peu de mal à accepter. Donc, il y a eu débat, mais comme la Bible ne dit rien de la disparition du paradis terrestre, une hypothèse pouvait être faite qui était qu'il ait disparu avec le déluge, Donc c'était assez logique, puisque tout avait disparu, sauf ce qui flottait, le paradis avait de ce fait disparu. Mais comme ce n'était pas dit, on pouvait toujours le croire, et on l'a beaucoup cru longtemps. Je vous rappelle que c'est assez net dans son journal de bord, que Christophe Colomb se demandait si dans ces îles où il voyait des arbres merveilleux et inconnus et des peuples nus, il n'était pas retourné au paradis terrestre. Et vous allez voir que c'est parfaitement logique, puisqu'il était à l'extrême est. Et donc, en traversant l'Atlantique et en espérant atteindre le bout de l'Asie, il devait arriver normalement au paradis terrestre. Alors, je pense que je ne vais pas faire injure à la plupart d'entre vous de bien connaître les mappes-mondes dites d'en haut, hein, les mappes-mondes médiévales, qui sont un découpage du monde, ce qui m'intéresse plus particulièrement. Mais ce découpage du monde bien est logiquement centré dans la pensée médiévale sur le Jérusalem, qui est le croisement de la barre des barres horizontales et verticales du T. Donc on est dans un monde tout à fait logique et ordonné, divisé en trois, on verra pourquoi, mais surtout qui est situé avec l'ouest en bas, ce qui signifie que Gibraltar, c'est l'extrême ouest du monde. C'est la vision tout à fait classique sur laquelle on vécu, qui reprend d'ailleurs les colonnes d'Hercule, hein, dont on reparlera, et qui sont une vision, elle, pré-chrétienne. Alors, une remarque, on a plus de 800 hein, mappes-mondes médiévales, je ne vais évidemment pas vous les infliger, mais si j'ai pris celle-ci, c'est que, comme beaucoup d'autres, on peut facilement identifier, un petit bruit, on peut facilement identifier tout en haut et deux personnes que vous pouvez d'ailleurs facilement reconnaître à leur nudité et à leur caractère honteux. Donc c'est, il y a le serpent qui rigole d'ailleurs, donc nous sommes après le péché, et ce sont Adam et Ève, hein, donc nos pères à tous. Il s'agit donc bien du paradis terrestre, et voyez, il est tout en haut. Alors là, on est dans la raison constitutive de la mappe-monde médiévale, c'est que c'est non seulement une cosmogonie, hein, un partage de l'espace, mais c'est aussi, comme souvent toute cosmogonie, un partage du temps. Et vous avez un récit qui va du levant au couchant, ce qui n'est pas non plus très nouveau, mais de fait de haut en bas, et qui nous met un processus historique de l'histoire de l'humanité avec au centre, au cœur, le pivot qui est la Jérusalem terrestre. Donc il est de ce fait logique de situer le paradis comme un point de départ, d'autant plus qu'une interprétation, du récit de la malédiction de Caïn dans le texte biblique indique qu'il a été rejeté dans les ténèbres au-delà de l'Éden. Hein, comme l'on le traduit dans un vocabulaire moderne, mais que les cinéphiles adeptes d'Elia Kazan reconnaîtront à l'est d'Éden. Et à l'est d'Éden, il n'y a rien, il n'y a plus que l'obscurité. Donc l'Éden est... Alors je dis que c'est une traduction moderne, puisque « est » est un mot viking, hein, qui a le même radical d'ailleurs que « Orient », mais même racine indo-européenne, mais n'est évidemment pas tout à fait dans le même type de transcription. Donc, c'est très gentil, mais... Donc vous avez un phénomène logique qui place, un raisonnement logique qui nous place le paradis au début, en haut, et à l'est, et de ce fait, Gibraltar se trouve à la fin, en bas et à l'ouest. Alors, c'est là où vous avez une construction graphique et qui place, en plaçant l'est en haut, littéralement, oriente les cartes. Et vous avez là l'origine de l'expression « orienter les cartes », qui est restée, même si, après, à partir du moment où, au XIIIe siècle, on a maîtrisé en Occident la boussole, d'origine chinoise, eh bien, cela a plutôt fait préférer l'axe sud-nord ou nord-sud. Il n'y a pas de raison avec la boussole. Hein. On a choisi le nord pour des raisons que je ne vais pas expliquer, parce que ça ne concerne pas directement maintenant, mais vous avez là quelque chose qui est un choix va évidemment orienter définitivement nos cartes au nord, sauf que dans notre vocabulaire, nous ne les avons pas septentrionnées, ce qui aurait été tout à fait logique. Voilà. Bon, donc nous n'occidentons pas nos cartes, hein, nous les orientons, mais en fait, pour cela, nous les mettons au nord, c'était effectivement un pur jeu de mots, mais pour situer la position de Gibraltar. Alors, parmi les mappemondes médiévales, celle que personnellement je trouve la plus belle, c'est celle de la cathédrale d'Hereford, hein, qui est dans un mur, c'est une petite ville à la marge de l'Angleterre par rapport au Pays de Galles. Vous avez cette superbe mappemonde qui est vraiment la somme, hein, de toutes les connaissances qu'un érudit de ces 1300 à peu près la date pouvait maîtriser. Vous avez par exemple dans l'île de Crète, vous avez le labyrinthe, hein, je donne un exemple. On a aussi bien sûr tout un tas d'éléments d'indication chrétienne. L'arche de Noé est indiquée, mais vous avez évidemment, j'ai fait un petit zoom ici, vous avez évidemment une indication sur un détroit de Gibraltar, assez curieux d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais agrandi, avec cette espèce d'île centrale. Il est évident que notre érudit britannique ne connaissait absolument pas le détroit de Gibraltar. Alors, je m'arrête, c'est ma dernière diapo avec des mappemondes médiévales. Vous voyez que celle-ci nous représente un très beau paradis avec une forteresse, puisque parmi les hypothèses, il y avait l'idée que le paradis avait subsisté, mais il était entouré d'un mur de feu, enfin qu'on ne pouvait pas y aller, parce que c'était important. Ça joue aussi un rôle dans l'histoire des épices, mais nous ne travaillons pas sur le mot d'Orient aujourd'hui, mais sur le détroit de Gibraltar. Mais je termine par cette dernière qui m'a semblé particulièrement jolie, parce que vous avez un paradis qui est assez nettement indiqué sous forme d'une petite construction amusante, mais surtout vous avez quelque chose qui pourrait presque être une amorce des découvertes, enfin une annonce de ce qu'on appellera au 19e les grandes découvertes, avec ce bateau très 15e qui est spectaculaire et qui marque justement cette ouverture au monde du détroit de Gibraltar. Alors, venons-en, et ce sera la fin de ma première partie, à l'aspect tout à fait contemporain. Et là, je vais faire de la géographie, comme d'habitude, vous en avez l'habitude, donc ça va être très ennuyeux. Je ne suis pas du tout un spécialiste de précisément du détroit de Gibraltar, mais j'ai eu la chance qu'une jeune collègue ait publié, que vous trouverez d'ailleurs facilement sur Internet pour ceux que ça concernerait directement, un article dans EcoGéo sur justement la mondialisation. C'est ce qui m'avait fait lire l'article, parce que je suis censé être un spécialiste de la mondialisation. Vous avez là donc un certain nombre d'analyses. J'ai repris la plupart de ces illustrations. Et ici, cette figure est tout à fait intéressante parce que ce qui m'a frappé, c'est l'axe horizontal qui représente quelque chose qui est ancien, qui est tout simplement la circulation est-ouest en Méditerranée. Et vous avez donc à l'extrême ouest ici, la position du détroit de Gibraltar. Et vous avez Port Saïd à l'autre bout, c'est-à-dire que Gibraltar et le canal de Suez, hein, représentant les deux ouvertures. Il faudrait aussi bien sûr penser aux autres détroits pour la mer Noire, mais pour la circulation mondiale, l'essentiel, ce sont ces deux passages qui sont clés. Or, ce que vous avez sous les yeux, c'est la représentation graphique de la structure de la première entreprise mondiale de transport de boîtes, comme on dit, hein, de conteneurs, et qui est un armateur danois, hein, Maersk, et cet armateur fonctionne avec comme toute la circulation des boîtes aujourd'hui, fonctionne avec des bateaux de plus en plus énormes, et puis des points d'éclatement, qu'on appelle des hubs, et ces points d'éclatement, c'est un terme qui était d'abord utilisé pour les avions, mais qui maintenant l'est aussi pour les bateaux, et à partir de chaque point d'éclatement, vous avez des lignes secondaires, donc on a nécessairement des lieux de transbordement. C'est exactement ce qui se produit aujourd'hui à Gibraltar. Vous avez donc une vieille histoire qui se retrouve quand c'était des bateaux de type méditerranéen qui passaient à des bateaux de type atlantique. Là, ce sont d'énormes engins qui parcourent le monde de manière circulaire. Vous voyez, je l'ai inscrit ici, j'ai pris une carte qui n'avait pas... que je n'avais pas du tout fait faire pour ce colloque, mais qui nous montre l'idée de la circulation en anneaux, ce que j'appelle le bouclage du monde, hein, qui me semble vraiment la marque de la mondialisation économique contemporaine sur le plan purement matériel des balances commerciales. Et le bouclage du monde passe par le détroit de Gibraltar. Hein. Je reviens un instant à notre image. Et donc, vous avez ces énormes porte-conteneurs qui font le tour du monde, même très concrètement, en passant par Panama, en traversant aussi le Pacifique, en passant par Singapour. Alors là, c'est un très, très gros hub. En passant par Suez et Gibraltar. Et à chacun de ces lieux, vous avez à la fois une station-service pour les bateaux, ce qui est effectivement depuis longtemps Gibraltar, mais on a aussi de plus en plus, et je vais Voilà, je vous ai mis le trafic. On avait mis des balises en 2005 sur les bateaux pour tous les circuler. On a tiré cette image que je trouve particulièrement frappante. Évidemment, ça passe par Gibraltar. Et vous avez là quelque chose qui suppose justement ces lieux d'éclatement, ce qui fait que dans le détroit de Gibraltar, on a aujourd'hui, et ce depuis assez peu, hein, depuis une quinzaine d'années, le développement massif de deux lieux qui sont devenus quasi extraterritoriaux, qui sont de l'économie mondiale qui est en rupture pratiquement avec les pratiques territoriales. Alors, bien sûr, le développement d'Algeciras avec des zones franches et aujourd'hui énormément de bateaux hein, qui stationnent dans qui attendent leur déchargement. Et puis, depuis très peu, ça a ouvert en 2007 les premiers quais, la création d'une zone franche avec un aménagement considérable dans le nord du Maroc, hein, avec une sorte de second Tanger, mais vous voyez, on est quand même assez loin du vrai Tanger, de l'ancien Tanger. Et vous avez là, de manière couplée, et Merckx est effectivement le premier utilisateur de ces deux plateformes. La Compagnie Générale Maritime, qui est le troisième armateur mondial, est également d'ailleurs très présent et a acheté plusieurs des quais de Tanger Méditerranée. Voilà une image d'ailleurs qui était dans l'article des nombreux bateaux qui, comme au large de Singapour, sont dans la baie de Gibraltar. Et là, vous avez des images satellitaires où on voit les aménagements avant, puis après, avec les terre-pleins, et évidemment, ce que je ne développerai pas, tous les problèmes environnementaux que cela pose. Alors, ce qui va me servir de transition, vous aviez vu sur la carte précédente, que l'on avait à la fois ce grand axe est-ouest qui était mon opposition qui conduisait ma première partie et puis bien sûr l'importance des transbordements, des ferries. Alors, on a un des grands lieux de ferries du monde avec les passages nord-sud. Donc ça me permet d'aboutir à mon dernier élément qui est le passage nord-sud, mais avant les passages, j'ai remis cette carte. Alors on en a des plus récentes, mais celle-ci est devenue quasi archétypique, presque une icône qui est faite par Philippe Rykasiewicz, dans le monde de la cartographie, c'est un personnage particulier, c'est le cartographe du monde diplomatique, et c'est la carte de la forteresse Europe, et évidemment Gibraltar est particulièrement bien identifié sur cette carte, puisque les gros cercles représentent le nombre des noyés qui ont tenté de pénétrer illégalement en Europe, et évidemment je ne pouvais pas terminer ce rôle de la discontinuité maritime du passage à l'opposition nord-sud sans commencer par cet aspect. Donc seconde partie, on va passer, on se tourne d'un quart et on va passer à l'axe nord-sud, et justement je crois que dans l'opposition nord-sud c'est vraiment un lieu particulièrement marquant. Alors je vous ai mis la couverture d'un rapport qu'on appelle le rapport Brandt, parce que c'était une commission de la Banque mondiale présidée par Willy Brandt, qui était ex-chancelier allemand à ce moment-là. Et cette commission Brandt, son rapport en 1980, est à l'origine d'une formule qui est tombée dans le domaine public depuis une trentaine d'années, qui est l'expression Nord-Sud. Alors, j'ai souvent l'habitude, et je vais me retenir et ne pas le faire, de gloser sur le caractère post-moderne de cette expression qui utilise une division du monde en termes spatiaux et non plus en termes de temporels, en termes dynamiques. Car jusque-là, on disait en voie de développement, développé. C'est-à-dire des processus, des étapes de processus. Et là, sans faire du François Hartog, on est incontestablement dans un passage intellectuel d'un régime de modernité à un régime de présentisme, je dirais, où l'espace est très important dans le domaine des constructions de représentation, puisque c'est notre thème. Je me retiens, on pourra peut-être en discuter plus tard là-dessus, c'est pas le fait, mais le fait que ça soit en 1980, qui est aussi, je vous le signale, l'année où le mot mondialisation passe dans le domaine public, enfin en tout cas est inscrit dans le petit Larousse et le petit Robert, c'est aussi tout à fait significatif de ces deux éléments. Donc là, j'ai juste mis une carte des eaux territoriales hein, pour nous rappeler ces types de discontinuités qui sont inscrites. Mais vous rappelez que, ce deuxième point, que c'est là où on a décidé que l'Europe s'arrêtait. Parce que le processus est dans ces termes, on n'a pas décidé que l'Afrique commençait, on a décidé que l'Europe s'arrêtait. Et comme l'Europe s'arrête, bah, autre chose commençait, et de ce fait, c'est l'Afrique. C'est en ce sens-là qu'il faut le voir. Alors, bien sûr, il y a d'abord un processus historique que l'on connaît qui est le fait que l'Europe est un processus en expansion. Donc je ne veux pas revenir dans tous les axes que l'Europe va développer, que de ce monde de l'an 1000, c'est pris dans la classe du billet, ce monde de l'an 1000 enfle, il y a le Drang Narosten hein, qui est le plus connu, ça peut même aller à des épisodes qui disparaissent ensuite, mais vous avez évidemment cette poussée vers le, parmi les poussées vers le sud, il y a l'Italie, mais il y a la poussée aussi à travers la péninsule ibérique. Je suis personnellement toujours choqué quand je lis dans des ouvrages historiens, j'espère que personne ne l'a fait ici, qu'en 1492, l'Europe atteint ses limites. Cette phrase ne me choquerait pas trop, mais l'Europe retrouve ses limites. C'est-à-dire qu'avec la disparition de l'émirat de Grenade, on a une Europe qui aurait atteint la boîte dans laquelle elle devait se caser. Bien évident qu'on a une ère culturelle, enfin culturelle est plus que le terme n'est pas suffisant, mais je fais tout ce que je peux pour éviter le mot civilisation. On a une ère géographique qui se construit évidemment en rapport dynamique et conflictuel avec les aires voisines et réciproquement, et qu'en 1492, cela va se fixer sur le détroit de Gibraltar. Je vous rappelle qu'il aurait pu en être autrement. D'abord, je reviendrai sur cette flèche dans un instant, mais je cite la bataille des Trois Rois, c'est bien parce qu'il y a eu une aventure portugaise, certes, qui peut sembler farfelue, mais que la reconquista, puisque tel est le terme qui est une conquista plutôt, le terme traditionnel, il n'y avait pas de raison qu'elle s'arrête à Gibraltar. Simplement, me semble-t-il, je le lance là brièvement puisqu'il ne me reste plus que 10 minutes, comme une provocation, ce que je montrais sur la carte précédente avec la flèche qui partait vers l'ouest, 1492, c'est aussi, comme dans le très joli livre de Bernard Vincent qu'il avait titré « L'année admirable », et il avait vu une troisième date qui était pour la construction des identités nationales, je crois que c'est la première grammaire espagnole, mais 1492, c'est bien sûr Christophe Colomb, c'est-à-dire quelque chose qui projette, continue à projeter cette dilatation de l'Europe, mais outre-mer. L'aventure de portugaise au Maroc était sans espoir. Cela dit, il ne faut pas la prendre comme un fait acquis. On peut tout à fait imaginer une dynamique qui aurait continué s'il n'y avait pas eu une expansion outre-mer. Et lorsque, en 1989, le Maroc a été candidat à l'Union européenne et a été refusé parce qu'il n'était pas européen, c'est un point très bref sur lequel je reviendrai, un problème que l'on connaît bien avec la Turquie, eh bien, alors qu'on ne se pose jamais posé la question sur Malte, je le signale, et sur Chypre, ou sur l'Islande. Donc vous avez là quelque chose qui apparemment peut être un problème érudit, mais est un problème tout à fait chaud sur le plan géopolitique contemporain. Donc, le dernier point sur lequel je terminerai, c'est justement le caractère de création de ce découpage du monde. Alors là, je suis dans mon terrain favori, donc je vais essayer d'être le plus elliptique possible. Alors, j'ai donc mis une carte qui représente nos continents. Alors, je ne vais pas, mais je le fais volontiers si vous le souhaitez, vous dire que ça n'a aucun rapport avec les plaques tectoniques. Aucun rapport. C'est l'inverse, plus exactement. Si cela a un rapport, ce sont les plaques qui ont un rapport avec les continents. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à ce que j'ai fait, à la dénomination des plaques tectoniques, dans les années 59-65, quand des géophysiciens inventent ce modèle intellectuel à partir de la connaissance des fonds marins, c'est tout à fait passionnant sur le plan intellectuel, l'invention d'un grand modèle, et ils utilisent le nom des plaques. Ils retrouvent d'ailleurs de la vieille dérive des continents, qu'on peut même refaire remonter à Jean Bodin au XVIe siècle, qui est le premier à avoir eu l'idée, le premier à l'avoir écrit en tout cas, que l'Afrique et l'Amérique s'emboîtaient. Mais vous avez là quelque chose qui est devenu tellement familier qu'on a quelque chose qui est devenu naturel. Alors c'est pour ça que j'avais... Alors excusez-moi... Madame Desbosques, j'avais tiqué sur l'expression réalité géographique. C'est parce que justement, il faut beaucoup se méfier des géographes qui ont l'air de dire des choses tout à fait benoîtes et sans danger. Mais justement, c'est un processus très classique de la fonction de la géographie de naturaliser des choix civilisationnels tout à fait historiques. Et là, les continents, c'est quand même l'un des meilleurs exemples. Il y en a d'autres. Mais vous avez là quelque chose qui fait qu'on apprend à l'école, ça c'est une carte scolaire, hein, je peux vous dire, qui à mon avis est d'origine états-unienne, même si je l'ai trouvée sur le site d'un collège français, parce que vous avez l'Amérique, il y a les Amériques, elle est au pluriel, l'Amérique, il y a deux couleurs, hein, et ça c'est pas français, même si on commence à être contaminé. Donc vous avez là quelque chose qui est présenté comme un fait de nature. Et les faits de nature, ça ne se discute pas. Vous voyez que vous retrouvez ce que j'ai dit, enfin, on peut faire un lien avec ce que j'ai dit il y a un instant sur Nord-Sud, sur des choses qui semblent neutres. Alors, je reprends un instant la petite mapon de d'Isidore de Séville, puisque c'est lui qui a le dernier rédigé cela, et vous avez une filiation tout à fait nette avec les cinq parties du monde, si je compte en français, c'est cinq, hein, c'est les... d'où le drapeau olympique d'ailleurs, mais vous avez, ça peut être 6 ou 7, hein, mais peu importe, hein, ça ne joue pas grand rôle, mais vous avez bien là ce type de filiation. Le mot important n'est pas le mot Afrique, qui est plus récent, c'est le mot Europe. Alors bien sûr, il y a de plus éminents, beaucoup plus éminents hellénistes que moi ici. Je vous rappelle que c'est un mot d'origine phénicienne en réalité, hein, et que le problème de départ n'est pas du tout à l'ouest de la Méditerranée, qui est une périphérie lointaine, celle des colonnes d'Hercule, mais à l'est de la Méditerranée, et que les mots Europe et Asie, qui sont les mots de départ de notre division du monde, sont tout simplement les bords, les rives du monde grec, c'est-à-dire en fait de la Thalassa, hein, de l'Égée, et non pas de la péninsule au bout des Balkans, hein, qui désigne la Grèce actuelle. Donc le mot Asier, pour le dire plutôt en racine grecque, et Européen, sont d'ailleurs des mots qui ne sont eux-mêmes pas d'origine indo-européenne, semble-t-il, là je suis incompétent, mais d'origine plutôt sémitique, hein, probablement phénicienne. Mais dans tous les cas, ils signifient tout simplement « le vent est couchant ». Et on retrouve dans la même logique qu'est et ouest, hein, que je le disais tout à l'heure. Donc il s'agit simplement de direction. Et c'est seulement, à peine l'époque médiévale, hein, où cela va se transformer en territoire. C'est à partir du XVIe siècle, véritablement, que l'on a ce découpage. Et vous voyez qu'on retrouve notre 1492, hein, on retrouve ce moment décisif. Alors, juste pour vous dire que si, à l'époque médiévale, on a éprouvé le besoin de diviser le monde habité, l'écoumène, hein, en trois, il pouvait y avoir des terres ailleurs. Mais c'est tout simplement parce qu'il s'agissait d'avoir les territoires des peuples. On aurait dit longtemps des races d'ailleurs de l'humanité, et très logiquement, si on fait une lecture littérale du texte biblique, les trois pères, je vous ai mis cette très belle map monde de Marmillon, mais qui est très connue celle-ci, elle est à Bruxelles, qui est 15e, donc on n'y croyait plus du tout, hein, cette vision du monde, mais elle a les trois personnages qui m'intéressent, Sem, Japhet et Cham, et comme vous êtes de bons connaisseurs du texte biblique, vous avez reconnu les trois fils de Noé. Donc toute l'humanité découle nécessairement de Noé, donc de ses trois fils. Le texte biblique, je l'ai d'ailleurs mis ici, c'est une histoire sans femme, hein, donc. Alors comme si on fait l'exégèse, ils sont partis dans des directions différentes qu'on peut essayer d'identifier, donc il y en a vers l'est, etc. On en a tiré trois territoires, et pour cela on a repris des mots antiques. Alors Europe et Asie s'imposaient, et puis il fallait une troisième partie, et on a fait le choix d'Africa, qui est un choix finalement relativement curieux par rapport à Libye ou Éthiopie, qui correspondait plus à la rive sud de la Méditerranée, qui est celui du nom de la province romaine de Carthage, hein, en gros l'Africa. Qui d'ailleurs a donné l'Ifriqiya actuelle, le nom arabe de la Tunisie. Hein. Donc vous avez là quelque chose qui est une vision du monde qui, au fond, n'a quand même pas eu grande importance dans les faits jusqu'au XVe, XVIe siècle. Alors, incidemment, je vous rappelle qu'il y a un épisode biblique, j'ai dû mettre le texte, qui est la malédiction de... Canaan, c'est-à-dire le fils de Cham, à cause de la bêtise que Cham avait fait et qui est racontée dans le texte biblique et qui a donné lieu à une glose absolument considérable. J'ai plus le temps, mais on a littéralement le texte biblique dans cette mosaïque de Palerme. Et vous avez à partir de là la malédiction de l'Afrique. C'est-à-dire Canaan, c'est l'Afrique. L'Afrique est condamnée à être, dans le texte, les serviteurs des oncles de Sem et de Japhet, des descendants de Sem et de Japhet. Donc ça justifie toutes les traites négrières, mais je le dis très vite. Et ce n'est pas propre au christianisme. Ça a été aussi dans l'islam ou dans le judaïsme. Dans l'iconographie, simplement, il devient noir comme marque de la malédiction que très tardivement. Alors, autre élément où on retrouve l'Afrique et l'Europe, c'est la glose qui a été faite sur les mages. Donc, je vous ai mis le texte de Matthieu où il nous parle de la visite des mages. C'est le seul à en parler, les quatre évangélistes. Mais ces mages sont devenus progressivement trois rois. Ça, c'est une histoire byzantine. Ils ont eu des noms, d'ailleurs. Les Occidentaux les ont fait, associés à plusieurs, sur la base 3, à plusieurs éléments. Alors, il y a des âges de la vie, il y a la triple fonctionnalité, bon, je vous renvoie à Duby d'ailleurs, et il y a les trois parties du monde. Alors, ce qui fait que c'est ainsi que dans l'iconographie européenne, là je vous ai mis le détroit de Gibraltar, puisque vous avez le mage Europe et le mage Afrique, vous avez le fait que le troisième mage est devenu noir, ce qui n'était pas forcément dans la première forme iconographique les plus anciennes. Voilà, de nouveau ici, le mage Asie étant le plus âgé et étant celui qui est en premier dans l'histoire. Donc c'est seulement, il ne me reste plus que 2 minutes, donc je serai très bref, c'est ce qui est important, c'est de voir que c'est au XVIe siècle que les choses se cristallisent. Elles se cristallisent bien sûr parce qu'on découvre l'Amérique, d'où j'illustre le propos avec la carte de Waldo-Zimmler, celle sur laquelle a été écrit pour la première fois le mot « America », c'est de là que tout est parti. Comme ça a été à Saint-Dié-des-Vosges, c'est là où ma corporation se retrouve tous les ans pour son festival. Mais vous avez ce moment important, ce n'est pas le baptême de l'Amérique seulement, c'est aussi au XVIe siècle que les Européens s'appellent Européens. Avant, ils ne s'appelaient pas Européens. Ils s'appelaient chrétiens, latins, francs, etc., mais ils ne s'appelaient pas Européens. Et c'est dans des premiers textes, on a des textes du XVe qui commencent à utiliser le terme, mais c'est au XVIe que les choses se fixent, malgré des résistances. Charles Quint, par exemple, pour parler d'un local, Charles Quint n'aimait pas du tout cet usage. Et Europe, il préférait chrétienté et chrétien à européen. Mais ce n'est pas lui qui a gagné. Donc vous avez cette division, je ne vais pas revenir là-dessus, cette opposition du monde. On construit une vision du monde avec une iconographie absolument extraordinaire. La plus célèbre des iconographies, c'est la Residence of Urburz avec le grand plafond de Tiepolo, mais vous en avez beaucoup d'autres. Je pourrais parler des heures là-dessus, ce que je ne ferai pas. J'ai juste mis des éléments qui nous lient tout à fait au système monde contemporain. La fontaine de Carpeau, qui est à 2 pas de mon bureau et où j'emmène souvent mes étudiants, une représentation des 4 parties du monde, avec une Afrique qui est au premier plan, les chaînes brisées, d'ailleurs c'est la fin de la traite négrière, la fin de l'esclavage, et c'est une représentation qui est sur le méridien de Paris. C'est-à-dire qu'on est au moment où on débat de quel va être le méridien zéro entre Paris et Londres, c'est pas Paris qui a gagné, mais vous avez là, on est sur l'avenue de l'Observatoire, c'est le méridien de Paris. Alors les Britanniques ont leur truc à eux, je vous conseille d'aller voir, on ne va jamais le voir, l'Albert Memorial à Londres, les 4 groupes de statues qui sont aux 4 coins de cette immense esplanade que la reine Victoria a fait élever à la gloire de son mari, défunt. Je vous représente l'Afrique ici, qui est une Afrique, elle, pas du tout de Gibraltar, mais elle est totalement égyptienne, l'Afrique. Alors évidemment, les Français représenteraient l'Afrique tout à fait noire et tout à fait autrement. Voilà, d'où le rôle scolaire de cette Europe qui s'étend de l'Atlantique à Oural. Je vous ai mis une vraie Vidal de la Blache, c'est dans mon identité corporative. Et on apprend, bien sûr, je l'utilise en général pour discuter de l'Oural, qui est un tout autre sujet, mais évidemment, ça marche parfaitement pour Gibraltar. Et je termine sur la carte qui qu'on connaît tous, hein, parce que nous en avons tous dans nos poches, enfin tous les eurolandais, si ce ethnonyme existe, en tant que nous le sommes, c'est évidemment quelque chose qui nous intéresse particulièrement, avec une discontinuité de couleurs, hein, on peut bien remarquer. J'ai mis les plaques, c'est particulièrement amusant, mais je termine sur autre chose, les rôles se sont inversés. L'Afrique est une invention européenne, mais elle a été drôlement intégrée. J'en suis enseignant à l'université de Dakar, je peux vous dire que l'Afrique, en tout cas au sud du Sahara, elle existe. Au Maroc, non. Mais au sud du Sahara, oui. Être africain, ça a un sens identitaire extrêmement fort. Et l'Union africaine, qui a un drapeau insulaire, enfin, c'est, on peut dire un archipel, puisqu'il y a Madagascar, mais il n'y a rien, il n'y a rien d'autre. Hein, c'est comme... c'est les seuls au monde. En 2004, promu un texte solennel demandant la libération de toutes les terres africaines qui n'étaient pas encore décolonisées. Alors vous allez penser à ce tas, bien sûr, pour Gibraltar, Melilla, vous avez raison, mais ils pensent à toutes les îles, et c'est le seul texte diplomatique, et j'espère qu'il n'y en aura jamais d'autres, qui se fonde sur la tectonique des plaques. Et qui utilisent la tectonique des plaques comme justification de leur identité. Donc la plaque africaine, parce que ce n'est pas tout à fait absurde, justifie l'Afrique et de ce fait justifie la décolonisation. Alors, sauf qu'ils prennent, justement, les bourrelets sont souvent des lieux où il y a des îles, l'Islande par exemple, qui pourrait très bien être considérée comme américaine, mais aussi les Açores ou Madère. Il y a aussi le problème de la Réunion, d'ailleurs, et de l'île Maurice, et donc demande la décolonisation de Madère, ce qui est très amusant, d'ailleurs, par rapport à ce qu'est politiquement en général Madère. Donc vous avez là, somme toute, le fait que cette histoire, qui sont apparemment des petites histoires presque anecdotiques, sont des éléments géopolitiques extrêmement chauds, et j'aurais pu multiplier les exemples dans le monde. Voilà, j'ai débordé de 2 ou 3 minutes, je vous prie de m'en excuser, et merci de votre attention.